aller dans le livre de Josué. Le livre de Josué. On va terminer la deuxième partie du message qu'on a commencé il y a deux semaines. Il y a des nouvelles personnes avec nous ce matin. Je vous souhaite la bienvenue au nom des membres de l'Église. Et encore une fois, sentez-vous vraiment à l'aise de participer de manière quelconque à cette réunion. Alors, nous avons vu il y a deux semaines l'histoire d'une prostituée qui s'appelait Rahab, qui vivait à Jéricho. Et nous avons dit qu'il y avait trois choses fondamentales à examiner dans ce texte. Et la première, c'était que Rahab, Dieu va amener Rahab à vivre une situation où elle va devoir prendre une décision qui changera radicalement sa vie. Et ça arrive aussi dans nos vies. On vit à travers le monde, parmi les gens. Et à un moment donné, il arrive des situations qui sont dramatiques dans nos vies où on est appelé à prendre des décisions qui peuvent finalement... complètement changer finalement la trajectoire qu'on avait commencé à entreprendre dans la vie. Et ce passage, eh bien, que nous avons lu, illustre bien la grâce de Dieu qui ne fait pas de distinction entre les personnes. Donc, au niveau, c'est ce qui est béni aussi, hein, c'est intéressant pour nous, c'est fortifiant, encourageant pour nous de savoir que Dieu, c'est pas en fonction de nos capacités intellectuelles qui décide de nous choisir, qui décide que nous fassions partie de son peuple. C'est plutôt une question de disposition de cœur. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est disqualifié pour faire partie de la famille de Dieu. Et la deuxième chose ce matin que j'aimerais regarder avec vous, c'est qu'est-ce qui a amené Rahab à être si convaincue? Non seulement Dieu va l'amener à vivre une situation qui va lui permettre de prendre une décision qui va changer radicalement sa vie, mais il va lui donner une preuve, le Seigneur va lui donner une preuve qui va la convaincre hors de tout doute. Vous êtes-vous déjà demandé comment une cananéenne, une prostituée, une païenne pouvait avoir une telle conviction au point de vouloir être sauvée? Je vous invite à lire les versets 8 à 11. Ah tiens, je vais la lire en français courant. Maintenant. Chapitre 2, versets 8 à 11. De son côté, Rahab monta sur le toit de sa maison avant que les deux hommes soient endormis. Elle leur dit, « Je sais que le Seigneur vous a donné notre pays. Vous nous inspirez une si grande terreur que chacun ici a perdu tout courage à cause de vous. Nous avons appris en effet que le Seigneur a asséché la mer des roseaux pour vous permettre de la traverser lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris aussi que vous avez tué Sion, c'est-à-dire les deux rois, Sion et Og, les souverains des deux royaumes amorites situés à l'est du Jourdain, et que vous avez détruit tout ce qui leur appartenait. À ces nouvelles, eh bien, le cœur nous a manqué et personne ne se sent plus le courage de vous résister. En effet, le Seigneur, votre Dieu, est Dieu en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Prions. Seigneur, notre Dieu, encore une fois, nous savons que, parce que nous sommes tes enfants, nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous savons, Seigneur, que tu agis encore avec puissance dans les cœurs, comme tu l'as fait, Seigneur, au tout début de la création. Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi ce matin, afin que, non seulement, Seigneur, nous ayons les oreilles, nos oreilles ouvertes, mais particulièrement, que nos cœurs puissent être ouverts à recevoir ce que tu as prévu pour chacun de nous. Seigneur, tu connais les besoins de tous et chacun ici, que tu puisses répondre à ces besoins ce matin et que les personnes puissent sortir d'ici, fortifiées, encouragées, parce qu'elles t'auront rencontré. Et tout cela, c'est dans le bon nom de Jésus que nous te prions. Et le peuple de Dieu dit, OK, qu'est-ce qui a amené Rahab à avoir une telle conviction? Qu'est-ce qui l'a convaincu que Dieu avait donné ce pays aux Israélites, deuxièmement? Troisièmement, qu'est-ce qui l'a convaincu que Jéricho était une cause perdue? Quatrièmement, qu'est-ce qui l'a convaincu que Dieu était un si grand Dieu? Cinquièmement, comment pouvait-elle dire en tant que païenne, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre? Comment a-t-elle pu être convaincue, sixièmement, que son seul espoir se trouvait en lui? Septièmement, quelle est la raison qui l'a amené à se ranger du côté de ces deux hommes? Huitièmement, pourquoi a-t-elle accepté de les cacher au prix de sa vie? Et neuvièmement, comment cette païenne a-t-elle pu être imprégnée d'une si profonde conviction? Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe dans le monde quand on parle de Dieu. Ce n'est pas nécessairement ces réactions-là qu'on reçoit de la part des gens. Et cette païenne ici, cette prostituée, cette méprisée de la société de son époque, eh bien, elle est un témoignage extraordinaire pour nous ce matin. Et aussi, qu'on puisse recevoir la conviction qu'il n'y a pas de cause perdue pour Dieu. Si Dieu était capable de sauver cette femme-là, il est capable de sauver n'importe qui. C'est vrai ou c'est pas vrai? N'importe qui. Ouais. Frères et sœurs, si cette personne, cette femme était convaincue, c'est parce qu'elle avait entendu parler des miracles que Dieu avait accomplis pour son peuple, et celle-là l'avait convaincue au point de dire que l'Éternel, votre Dieu, est celui qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Elle en était venue à cette conviction en observant les miracles que Dieu avait accomplis et les victoires qu'il avait accordées à son peuple. Si les Israélites étaient en train de traverser le désert, eh bien, avaient rassemblé aux gens autour d'eux, au peuple qui était autour d'eux, eh bien, dans son cœur, je suis convaincu que Rahab n'aura pas eu cette conviction. Mais voilà, elle ne pouvait pas nier que Dieu avait ouvert la mer Rouge en deux. Vous savez, si Josué a envoyé des espions à Jéricho, je peux vous dire que le roi de Jéricho, il a envoyé aussi ses espions pour voir ce qui se passait avec le peuple d'Israël. Il entendait parler de toutes sortes de choses, hein. Et ça a été rapporté, ça, au peuple de Jéricho. Hein. Pas pour rien que le peuple, c'est pas juste Rahab, hein, tout le peuple qu'elle dit. Hein. Donc, ça avait été rapporté de ce qui se passait, des miracles, de la puissance que Dieu manifestait à travers son peuple et que Dieu balayait tout sur son chemin. Vous ne pouviez pas nier le fait que Dieu lui avait accordé la victoire sur de puissantes armées et elle ne pouvait pas nier que Dieu marchait devant eux. C'est ce qui amènera cette femme à dire, quand nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, et quand nous avons appris ce que Dieu avait fait pour vous, le cœur nous a manqué et nous avons perdu de courage. Frères et sœurs, voulez-vous savoir quel est le plus grand sermon que les gens peuvent entendre dans l'église baptiste de Dlin? Ce n'est pas celui qui vient de la chair le dimanche matin, c'est celui que les gens voient dans vos vies à partir du lundi matin. Frères et sœurs, lorsque les gens de cette ville voient les miracles que Dieu a accomplis dans les cœurs et dans les vies de ceux qui font partie de son peuple, ils finissent par dire « L'Éternel, votre Dieu, est le vrai Dieu. » Voilà ce qui a convaincu Rahab, la prostituée. Ces gens, ils faisaient partie du peuple de Dieu. Ces gens, à l'aspect si inoffensif, étaient transformés. Dieu accomplissait des miracles dans leur vie et les gens de Jéricho avaient appris comment Dieu avait séparé les eaux de la mer Rouge pour eux et comment Dieu avait vaincu leurs ennemis. Voilà ce qui va convaincre les gens de cette génération à dire « Dieu est le seul Dieu ». Voilà ce qui va convaincre les gens à l'extérieur que Dieu, l'Éternel, est vraiment le vrai Dieu. Amen. Frères et sœurs, y a-t-il suffisamment de preuves que Dieu œuvre dans nos vies pour convaincre vraiment ceux qui vivent autour de nous? Que le Dieu que nous adorons est le vrai et seul Dieu. Est-ce que les gens à l'extérieur peuvent voir la différence? Qu'est-ce qu'il y a de si différent dans nos vies que les gens qui nous observent ne peuvent expliquer autrement que par une intervention de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans cette vie, dans la vie de cette Église, que nous ne pouvons pas expliquer en dehors de toute intervention ou planification humaine? Qu'est-ce qu'il y a dans nos vies de tous les jours qui fait en sorte que lorsque les gens nous voient, ils disent « Le Seigneur, votre Dieu, est avec vous ». Il y a quelque chose que vous vivez qui est différent de ce que nous vivons. Frères et sœurs, lorsque les gens peuvent voir qu'il y a quelque chose de différent dans nos vies, ils vont vouloir ce Dieu, le Dieu que nous avons. Un des plus grands réveils spirituels dans le monde que le monde a connu fut celui survenu le jour de la Pentecôte, hein, qui va avoir lieu le 4 juin prochain. Tourne avec moi au chapitre 2. On va regarder rapidement ce qui s'est passé du livre des Actes. J'aimerais vous montrer quelque chose d'intéressant qui est survenu ce jour-là, où les gens étaient témoins de quelque chose de miraculeux. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que Dieu peut faire encore des miracles aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que Dieu va attirer des gens à travers vous en accomplissant des miracles dans vos vies? Est-ce que Dieu veut vous utiliser pour que vous partagiez ces miracles qu'il fait dans vos vies, pour les attirer à lui, pour faire en sorte d'amener les gens à être convaincus que l'Éternel que vous servez, c'est le seul vrai Dieu? Et c'est ce que le monde d'aujourd'hui a besoin de voir, comme Rahab a eu besoin de voir à son époque pour être convaincu que le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, c'était le seul véritable Dieu. J'aimerais que vous remarquiez ce qui est écrit au verset 12. Lorsque ces événements ont commencé à prendre place ce jour-là dans le cœur et la vie des membres du peuple de Dieu, il est écrit, ils étaient tous dans l'étonnement. Qui était dans l'étonnement? Ce n'était pas le peuple de Dieu, mais ceux qui n'étaient pas sauvés. Ils étaient dans l'étonnement et ne sachant que penser, nous dit le texte, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci en bon français? Qu'est-ce que ça signifie? » Qu'est-il arrivé à ces 120 disciples? Une bande de peureux qui étaient cachés. Et voilà qu'il se passe un miracle. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, nous dit le texte biblique, versets 3 à 8. « Tout à coup vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. » Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon quel esprit leur donnait de s'exprimer. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ce fut une réunion incroyable, frères et sœurs, un événement inoubliable. Il y a eu deux Pentecôtes, la Pentecôte des Juifs, ce jour-là, et la Pentecôte des païens avec Corneille. C'est les deux seules places où on voit des langues, on voit des langues de feu qui descendent sur les gens. Deux Pentecôtes, celle des païens, celle des juifs. Les gens qui étaient présents ce jour-là étaient tous dans l'étonnement et ne sachaient que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Il se passait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer et ils étaient déconcertés. Frères et sœurs, il n'est pas étonnant, verset 27, de les entendre poser une deuxième question. Regardez, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Frères et sœurs, les gens ici se posent deux questions. La première question, qu'est-ce que tout ceci? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et la deuxième question, que ferons-nous? Verset 37. Pardon, ou que dois-je faire pour être sauvé? Hein? Est-ce que vous savez que le problème de l'Église du 21e siècle, quel est le problème, pardon, de l'Église du 21e siècle? Nous essayons de répondre à la deuxième question avant de répondre à la première question. Nous essayons d'amener les gens à dire « Que dois-je faire pour être sauvé ?» avant qu'ils aient vu en nous quelque chose qui les pousserait à vouloir être sauvés. Paul et Silas, quand ils sont dans la prison, quand le geôlier voit les éléments miraculeux qui se passent, il s'est déjà posé la première question dans sa tête. La deuxième qui va venir, c'est « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Pourquoi? Parce qu'il voit Dieu agir. Quand la geôlier a vu que tout était en train de trembler, les fondations de la prison tremblaient, ça branlait de tous côtés, il s'est posé la même question qu'eux, qu'est-ce que tout cela signifie? Et quand il a vu les deux apôtres, que dois-je faire pour être sauvé? Et frères et sœurs, c'est ce que les gens de cette génération attendent de chacun de nous. Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça signifie que tu aies tant changé? Qu'est-ce que ça signifie que tu aies tellement transformé? Qu'est-ce que ça signifie que tu aies changé tellement de comportement? Qu'est-ce que ça signifie que ton style de vie n'est plus celui d'avant? Et là, vous y partagez le miracle que Dieu a fait dans vos vies. Ouais. J'ai rencontré Jésus-Christ. J'ai donné ma vie à Jésus. Ma vie n'est plus la même depuis. C'est un miracle, ça, frères et sœurs. Mon père s'est presque rendu malade à essayer de me changer. Il n'a jamais réussi. Pourtant, mon père, je le rencontrais tous les jours. J'ai rencontré le Seigneur une fois. La première fois que je l'ai rencontré, c'était radical. Ouais. Jésus a fait un miracle dans ma vie. Et c'est le seul témoignage que je peux donner. Qu'il a fait un miracle en m'amenant à lui. Et les miracles qu'il fait à chaque jour dans ma vie, en me gardant à lui. Parce que ça, c'est le plus important aussi. Facile de lever la main, c'est facile de s'avancer, mais de rester au poste, de rester dans l'armée, enrôlé, ça, c'est une chose différente. Frères et sœurs, quel est l'événement qui avait convaincu Rahab? Qu'est-ce qui l'avait amené autant à craindre le Dieu d'Israël? Elle avait vu Dieu agir avec puissance dans la vie de ce peuple, une puissance qui ne pouvait pas s'expliquer. Et cela l'a vraiment amené une profonde conviction dans son cœur. La situation qu'elle vivait lui a permis de réaliser que Dieu avait des gens à son service qu'il pouvait utiliser pour manifester sa gloire. Et c'est béni quand vous rencontrez un chrétien et puis quelqu'un vous partage un problème et vous dites, écoute, j'ai vécu le même problème que toi. Maintenant, Est-ce que tu permets que je te dise comment j'en étais délivré? Mais c'est miraculeux de partager ça. C'est vrai. C'est miraculeux, peu importe le problème. On pense souvent à la drogue, à tout ça, mais il y a d'autres problèmes qu'on vit intérieurement. Hein? Ouais. Les abus de toutes sortes qu'on a dans nos vies. Hein? Ouais. T'as un gros nez, les gens t'agressent avec ça, t'as un gros nez pendant des années. T'as un œil qui n'est pas la même couleur que l'autre, bien, on t'agresse avec ça pendant... Il y a des gens qui restent marqués avec ça, quoi. Hein? Bon. Il n'y a pas de gros nez, de petit nez. Il y a des nez différents, mais il n'y a pas de gros nez, de petit nez, quoi. Hein? Ouais. Mais il y a des gens qui restent marqués avec ça. Hein? Ah oui. Il y a des gens, hein, les oreilles, c'est la même chose. Hein? Ah oui. Il y a des gens qui, mine de rien, c'est des catastrophes pour eux tout au long de leur vie. Hein? Et ça les bloque dans énormément de choses. Et qui vont même suivre des thérapies pour essayer de se débarrasser de cette gêne qu'ils ont de façon naturelle quand ils rencontrent des gens qui ont les oreilles plutôt collées que de décoller. Ouais. Et puis là, on partage, on rencontre des gens, et puis ils voient qu'on a une joie qu'ils n'ont pas, quoi. Une joie que les médicaments ne peuvent pas leur apporter, une joie que différentes choses ne peuvent pas leur apporter. Et là, on peut leur parler du miracle que Dieu a fait dans nos vies. Parce que finalement, frères et sœurs, peu importe qu'on soit né dans l'Église ou en dehors de l'Église, là, avant de connaître le Seigneur Jésus, on leur ressemble tous. Hein? On leur ressemble tous. Hein? C'est ça qui est magnifique. Et là, pourquoi on ne leur ressemble plus? Parce qu'on a rencontré quelqu'un qui était capable de nous guérir, qui était capable de nous délivrer. Et ici, Rahab, c'est vraiment ce qui s'est passé avec Rahab ici. Hein? Elle a vu, là, écoutez, elle est quand même avec des gens qui n'ont jamais combattu. Il n'y a pas d'armée en Israël, hein, à ce moment-là. Hein? Ils sont esclaves depuis plus de 400 ans. Hein? Ils sortent. Hein? Ouais. Ils sont dans le désert, ils avancent. Ce n'est pas eux qui combattent. Hein? C'est le Seigneur qui combat pour eux. Hein? Ouais. Ils sont en train de se former. Ils sont en train de former une armée. Hein? Frères et sœurs, ce n'étaient pas des gens qui étaient capables, mais des gens qui s'étaient rendus disponibles pour que Dieu puisse agir à travers eux. Et dans l'Église, c'est la même chose. Dieu travaille avec des incapables, pas avec des capables, avec des incapables. Parce que Dieu veut se glorifier à travers ces gens-là. C'est pas magnifique, ça? Dieu ne vous demande pas un diplôme, hein, pour que vous le serviez. Hein. C'est béni, ça. Parce que vous imaginez si Dieu établissait la liste, finalement, des qualifications qu'on devrait avoir pour le servir, sur la base de nos sociétés, il n'y a personne qui est qualifié, hein. Et Dieu dit, c'est parfait, moi je ne demande pas de diplôme, simplement une disposition de cœur à me servir, et à travers ça, tu vas voir, je viens de glorifier. C'est pas merveilleux, ça. Et là, on ne parle pas d'un premier ministre, on parle de celui qui tient l'univers dans ses mains. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui est 3x5, qui est même pas capable, qui ne serait même pas capable de regarder, qui est même pas capable de voir le péché, qui aime le pécheur, qui déteste le péché, et qui dit, ben, écoute, en Jésus-Christ, tu es qualifié pour me servir, non seulement me servir, mais aussi être un témoignage pour moi et progresser, faire en sorte que mon royaume progresse. Merveilleux, ça, non? Merveilleux. Quand on regarde Rahab, d'où elle est partie, d'où elle s'est rendue, chapeau, hein? Et vous savez, c'est pas grâce à elle, hein? C'est pas son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu en elle. Hein? Alors, vous ne savez pas ici, écoutez, il y a peut-être un futur Billy Graham ici. Il y a peut-être un futur Dwight Moody ici. Il s'agit de se rendre disponible pour être utilisé par Dieu pour l'avancement de son royaume. Et peu importe la personne. Hein? Moody, ce n'était pas un gars d'université, c'était un vendeur de souliers, quoi. Billy Graham, c'est quelqu'un qui a été tout simplement invité, un enfant de chrétien qui a été invité à une soirée d'évangélisation puis qui a donné sa vie au Seigneur. Il n'avait jamais pensé, lui, de devenir évangéliste. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a appelé, il s'est rendu disponible. Frères et sœurs, les gens avaient vécu le miracle de la mer Rouge. Ils avaient vécu l'expérience du sang versé. Ils avaient vu Dieu agir avec puissance au milieu d'eux. Et je crois que lorsque les gens voient cela, ils veulent être sauvés. Peut-être que je me trompe, hein, mais ça c'est ma constatation. Lorsque les gens voient en nous quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer, lorsqu'ils nous voient vivre une façon de vivre qu'ils ne peuvent pas expliquer, ils en viennent à dire, il y a quelque chose concernant ces gens que je ne comprends pas. Et ils disent, comme Rahab, que signifie ceci? Il y a quelques années, une église dans le sud de la Floride avait pris l'habitude de tenir une réunion de prière à tous les matins. Un jour, les frères et sœurs dirent au pasteur qu'ils aimeraient voir Dieu faire un réveil dans la petite ville qu'ils habitaient. Un des hommes présents leur dit, « Écoutez, moi, la meilleure façon de provoquer un réveil dans une ville, c'est d'amener la personne la plus méchante de la ville à être sauvée. » On m'a appris ça. Et d'un commun accord, les gens commencèrent à prier pour que Dieu sauve la personne la plus méchante de la ville. Mais voilà, ils se disent en trop, on a un problème. parce qu'on ne connaît pas la personne la plus détestable de la ville. On ne fréquente pas les gens de la ville. Alors, ils décidèrent de faire des recherches. Ils tombèrent tous d'accord que la personne la plus méchante de la ville était un homme, un buveur invétéré, un homme sans scrupules, quelqu'un qui était fort impliqué non seulement dans les jeux illégaux, mais qui aimait se bagarrer dans les bars avec quiconque voulait se battre. C'était quelqu'un qui vivait une relation avec une femme mariée qui l'avait déjà tiré dessus parce qu'elle trouvait qu'il passait encore trop de temps avec son ex-épouse. Et la balle était allée se loger dans la hanche, mais on n'avait pas voulu l'opérer pour différentes raisons. Voilà à quoi ressemblait l'homme le plus détestable, le plus méchant de la ville. Le pasteur de l'église décida d'aller rencontrer cet homme. C'est l'épouse qui lui répondit. La conjointe qui demanda. Alors il demanda à parler à cet homme. Elle lui répondit qu'il se trouvait dans la pièce en arrière de la maison en train de jouer et de boire avec des copains. Elle dit au pasteur, « Pasteur, je ne pense pas que c'est vraiment le bon moment de rencontrer mon homme. » Alors le pasteur avait compris et il est retourné chez lui. Et voilà à quoi ressemblait cet homme. Frères et sœurs, cet homme que je suis en train de vous décrire, j'ai rencontré le même lors de mission vacances à l'église de La Panne. C'était un gars qui cassait tout à La Panne. C'était un gars qui a des gros problèmes de boisson, un bagarreur, un gars costaud qui s'appelait Daniel. Je ne sais pas si Olivier le connaît, à La Panne. Sa femme, c'est un peu dans le même milieu. Les gens qui étaient assez pauvres, en fonction, parce qu'il prenait son chèque et il buvait. Et quand le Seigneur l'a amené, quand il a rencontré le Seigneur, d'un service, je suis gêné de le dire, c'était le seul qui nous aidait à La Panne, quoi. Il n'avait pas demandé, c'est lui qui venait prendre nos vêtements au milieu de semaine, qui venait les laver chez lui. Il nous préparait un dessert, on n'avait rien demandé, il nous préparait des desserts, quoi. Et ils n'avaient pas plus d'argent qu'il faut, ces gens-là. Mais quel impact qu'il avait dans la ville quand il rencontrait les policiers, ses anciens ennemis. Les policiers disaient, hey, « Antoine, en tout cas, on est content de plus t'avoir dans les pattes, quoi. » Les gens se posaient des questions. « Daniel, comment c'est arrivé? » Quand on a décidé d'empêcher Mission Vacances de se tenir à La Panne, c'est le seul qui est allé au conseil de ville pour se battre, pour dire, « Écoutez, je ne comprends pas. Regardez ce que j'étais avant. Regardez ce que je suis aujourd'hui. Vous voulez les empêcher de partager l'Évangile sur la digue? » Ouais. Magnifique. C'est extraordinaire. Moi, je connais les raisons. Je ne les donnerai pas ce matin. Mais un gars qui avait de l'insignifiant, quoi. Un gars qui ressemblait à celui-là ici. Alors, l'Église décida de prier que Dieu puisse sauver l'homme le plus détestable de la ville. Les chrétiens commencèrent à prier que Dieu sauve cet homme et qu'il le transforme. Cet homme était dans une condition pire encore que celle de Rahab. Et dans ce petit groupe de prière, il y avait un homme qui s'appelait Al Cross. Cet homme avait été à une certaine époque, l'alcoolique le plus connu de la ville, un véritable ivrogne. Nous parlons ici de quelqu'un qui non seulement buvait à la maison, mais aussitôt que la taverne ouvrait le matin, il était le premier client. Et il n'avait pas le temps, il ne pouvait pas fermer la taverne parce qu'il était complètement pété au milieu de l'après-midi. Et les clients qui le connaissaient bien, le prenaient, ils le traînaient, puis il l'amenait finalement à l'extérieur pour le conduire chez lui. Puis un jour, Al Cross entendit parler de Jésus et il l'a accepté comme son sauveur personnel. Les gens n'avaient jamais vu une transformation aussi radicale chez une personne. Le Seigneur mit à cœur à Al Cross d'aller voir le pasteur. Il lui dit, « Pasteur, j'ai suivi toutes sortes de traitements pour me libérer de l'alcool. J'avais l'impression d'être un ivrogne stupide et on a fait de moi un alcoolique éduqué. On m'a donné toutes les solutions pour m'en sortir, mais je n'avais pas la force de le faire. Et puis un jour, j'ai entendu parler de Jésus-Christ et je l'ai accepté. J'ai compris que c'est en lui que je trouverais la force d'être libéré. » Avec l'accord de son pasteur, Al Cross est allé rencontrer l'homme le plus détestable de la ville pour lui parler. Et quelques jours plus tard, le pasteur retourna voir cet homme, ne sachant pas à quoi s'attendre. L'homme le reçut avec un sourire. Le pasteur lui dit, « Monsieur, je suis venu vous parler du Seigneur Jésus-Christ et vous expliquer comment vous pouvez être sauvé et libéré. » Le pasteur dit que l'homme le regarda avec sérieux en lui disant, sur un ton solennel, « Si j'avais la certitude que Dieu pouvait faire pour moi ce qu'il a fait pour Al Cross, je voudrais qu'il le fasse tout de suite pour moi. » Frère, c'est ça, n'est-ce pas merveilleux d'entendre parler ainsi cet homme qui était considéré comme l'homme étant le plus méchant et le plus détestable de toute la ville. Pourquoi? Parce que cet homme s'est converti. C'était comme si vous aviez vu un enfant venir à Jésus-Christ. Cet homme fut sauvé et il vit sa vie, il a vu sa vie être complètement transformée. Et celui qui fut jadis l'homme le plus méchant de toute la ville devint l'homme le plus courtois de toute la ville et il continua à vivre pour Jésus-Christ jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle à lui. Ouais. Qu'est-ce qui avait convaincu cet homme? Il avait vu son vieux copain Al Cross, avec qui il avait fait de nombreuses virées dans le passé, être complètement transformé. Il avait vu ce que Dieu pouvait faire dans la vie d'un homme. Frères et sœurs, le plus grand argument en faveur du christianisme, c'est la manière de vivre d'un chrétien. Et le plus grand argument qui nuit le plus au christianisme, c'est la manière de vivre d'un chrétien. Tout dépend de la façon dont le chrétien vit. Peut-être que vous vous dites à l'instant même, eh bien moi, j'ai jamais eu de problème d'alcool. Quelle sorte de miracle pourrais-je bien vivre dans ma vie? Que diriez-vous d'apprendre à rendre le bien pour le mal? Que diriez-vous de... Ce serait une bonne chose, n'est-ce pas? Que diriez-vous d'apprendre à aimer ceux qui vous détestent? Attendre l'autre joue quand on vous frappe sur la gauche, tendre la droite. À manifester de la bonté envers ceux qui vous veulent du mal. Et à laisser le Seigneur Jésus prendre le contrôle de votre vie. J'ai pris ces exemples-là parce qu'on est dans le sermon sur la montagne. Et il y a eu beaucoup de discussions si on devait tendre l'autre joue quand on nous frappait. Et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est pas facile à apprendre ces choses-là, mais quel témoignage. Quel témoignage pour les gens autour de nous. Dernier point, la preuve que Rahab était converti. Nous avons vu la situation qui va l'amener à changer de vie. Nous avons vu la preuve qui l'a convaincu. Et finalement, j'aimerais qu'on regarde ensemble la preuve que cette femme était convertie. Regardez ce qui est écrit au verset 11 à 13. Rahab est en train de parler aux deux espions. Au verset 11, elle dit, « Je sais que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est le vrai Dieu. » Puis elle ajoute au verset 12 et 13, « Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Regardez ce qui est écrit dans les versets 17 à 21 maintenant. Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache un cordon de fil cramoisi, c'est-à-dire un fil rouge, à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'entre eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à sa fenêtre. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que tout cela est arrivé par hasard, frères et sœurs? Est-ce que Dieu a fait en sorte que tout cela soit écrit parce que cela nous ferait quelque chose d'intéressant pour nous à lire? Non. Il est écrit dans Hébreux 11:31 que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Sa foi dans le Dieu Tout-Puissant et non pas dans ses bonnes œuvres, voilà ce qui a amené Rahab à se convertir et à être trouvée juste aux yeux de Dieu. Que nous rappelle le cordon de cramoisi attaché à la fenêtre? Frères et sœurs, rappelez-vous, juste avant de sortir d'Égypte, Dieu avait dit, « Je veux qu'on prenne un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut que vous allez immoler. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux linteaux de la porte et ainsi au-dessus de la porte. Je verrai le sang et je passerai outre, dit le Seigneur. » Frères et sœurs, dans la parole de Dieu, le sang, il est capital. C'est ce que je vous disais tantôt. Parce qu'au ciel, frères et sœurs, c'est le sang de Jésus qui va faire en sorte que le jugement de Dieu va passer au-dessus de vos têtes. C'est pas ce que vous aurez fait, hein? Ouais. Et Jésus sera à la droite, hein, dire, Père, couvert par mon sang, Jacques, OK, couvert par mon sang, Paolo, OK, couvert par mon sang, Ernest, OK. Ouais. Et quand Dieu voit le sang, il passe outre. Le sang, c'est important. Ces hommes avaient dit à Rahab, attache ce cordon de cramoisi qui est la couleur du sang à ta fenêtre. Gardez vos yeux sur le sang. Gardez vos yeux sur le sang de l'agneau. Vous serez unis avec nous qui sommes protégés par le sang parce que c'est le sang qui délivre. Frères et sœurs, il y a un cordon rouge qui part de Genèse et qui se rend jusqu'à l'Apocalypse. Vous voyez ce cordon rouge qui symbolise le sang lorsque Dieu a couvert Adam, le manteau dans le jardin d'Éden. Adam portait un vêtement d'animal qui avait été tué pour couvrir sa nudité, démontrant ainsi que du sang avait été versé. Mes frères et sœurs, regardez la conséquence du péché. La mort n'existait pas avant le péché. Il y a eu un péché, Dieu a offert un sacrifice, il y a un innocent qui est mort pour un coupable. Et c'est Dieu qui a offert le premier sacrifice pour couvrir Adam et Ève. Dieu a offert son propre fils, un innocent, mourir pour des coupables comme vous et comme moi. C'est Dieu qui l'a offert en sacrifice. Dieu n'était pas obligé de la faire. Dieu l'a fait. Frères et sœurs, ensuite, vous avez Abel qui a offert en sacrifice à Dieu un agneau, un des premiers-nés de son troupeau. Adam avait enseigné ses enfants à offrir des sacrifices qui étaient agréables à Dieu. Il le savait, il avait vu Dieu le faire. Hein? C'est une tradition orale qui se perpétuait. Et Caïn représente qui? Il représente le religieux. Caïn, c'était le cultivateur qui passait des journées dans son champ à faire pousser des choux, des carottes et tout ça, qui enlevait les mauvaises herbes autour et les arrosait, puis faire de quelque chose de beau. Et en tant que religieux, il a dit, je vais présenter mes œuvres, ce que moi j'ai accompli, plutôt que d'obéir à Dieu et d'offrir un agneau. Il n'y a pas de sang qui est versé à travers une carotte. Hein? Il n'y a pas de sang qui est à travers un concombre. Hein? À travers un radis, il n'y a pas de sang qui sort. Hein? Et Dieu a dit, quand je verrai le sang, je passerai outre. Il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Et Caïn, ben, pas content, hein? Ne voulant pas obéir, jalouse son frère. La jalousie amène de l'amertume, amène de la rancune, amène de la vengeance. Et le prochain péché qu'il va commettre, il va tuer son frère. C'est pour ça qu'il y a des religieux qui tuent les enfants de Dieu pensant qu'ils font la volonté de Dieu. Hein? C'est ce que Paul nous dit. Hein? Les religieux sont convaincus qu'ils sont dans la justice. Hein? Ouais. Mais ils sont comme Caïn, ils sont aveuglés par leurs œuvres. Ouais. Tous les sacrifices du temple étaient des sacrifices où du sang était versé. Certains d'entre eux préfiguraient le sacrifice parfait qui aurait livré un peu plus tard sur la croix, un peu plus tard sur la croix du calvaire. Lorsque vous arrivez au livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5, verset 9, regardez ceux qui ont leur Bible ce matin. Apocalypse 5, verset 9. C'est les anges qui sont en train de chanter dans les cieux. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils chantent un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre. Ça, c'est le cantique, ça, et d'en briser le sceau. Car tu as été mis à mort, et par ta mort, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour servir notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous retrouvons ce cordon de cramoisi dès le début du livre de Genèse, jusqu'au livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je le répète, c'est important, il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Chaque page de la Bible, frères et sœurs, est tachée par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, il est présent dans chaque livre de la parole. En quoi Rahab a-t-elle mis sa confiance pour se convertir? Elle a mis sa confiance dans le sang. Il est écrit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Rahab était quelqu'un qui avait été purifié par le sang. Ce n'était plus une prostituée, c'était une princesse d'Israël. Et elle allait devenir l'arrière-grand-mère du roi David. Et non seulement devenir l'arrière-grand-mère du roi David, on en avait parlé la première fois, mais elle va entrer dans la généalogie de Jésus-Christ. Quand vous lisez Matthieu, Rahab est une des trois femmes qui apparaît dans la généalogie de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est incroyable, hein? Il y a des gens qui font tout pour rester purs, il y a des gens qui font tout pour bien paraître, et qui non seulement apparaîtront pas dans la généalogie de Jésus, mais qui ne feront jamais partie de la famille de Dieu, qui n'entreront jamais au ciel, alors qu'ici on est avec une prostituée. Une prostituée, quoi. Qui accepte la parole de Dieu, qui devient son enfant, qui devient une princesse, et l'arrière-grand-mère de David, et fait partie de la lignée de Jésus-Christ. Rahab était une personne transformée, frères et sœurs. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans la première partie de ce message il y a deux semaines. La nature nous forme, le péché nous déforme, les études nous informent, la société nous réforme, mais seul Jésus nous transforme. Amen. Ouais. On va prier. Seigneur notre Dieu, tu connais notre vécu, tu sais où tu es venu nous chercher tous et chacun, Seigneur. Seigneur, tu n'as pas regardé à nos péchés, tu as regardé, Seigneur, à la disposition de notre cœur par rapport au message que nous avions entendu. Seigneur, la parole nous dit que tu aimes les pécheurs, que tu détestes le péché. Et nous voulons te rendre grâce ce matin parce que, Seigneur, cet amour t'a conduit à sacrifier ton propre fils sur cette croix, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir le pardon de nos péchés et à travers la résurrection et la vie éternelle. Seigneur, merci pour cette espérance vivante que tu as placée dans nos cœurs, que non seulement nos péchés sont pardonnés, que tu nous vois maintenant à travers la personne de Jésus, mais aussi qu'un jour tu nous ramèneras, comme tu l'as ramené de la mort à la vie, tu nous ramèneras aussi de la mort à la vie dans un nouveau corps qui ne vieillira plus, qui ne sera plus attaqué par quoi que ce soit. Et Seigneur, tu nous réserves un royaume extraordinaire, un paradis merveilleux, où tu nous dis que nous allons régner avec toi. Seigneur, merci de t'être révélé, de nous avoir donné ta parole pour nous révéler qui tu es, quel grand Dieu merveilleux tu es, et combien tu ne rejettes personne qui vient à toi. Et si dans cette salle ce matin, il y a des gens qui ne te connaissent pas encore, qui vivent des problèmes, qui ne savent pas comment s'en sortir, bien qu'on puisse se rappeler Rahab. Rahab avait aussi des problèmes dans sa vie, et tu en as délivré complètement, simplement parce qu'elle a mis sa confiance en toi. Seigneur, je te prie que pour nous qui sommes les membres de ton peuple, eh bien que nous puissions être, Seigneur, un témoignage miraculeux pour ceux et celles qui nous entourent, afin de susciter en eux ce désir de recevoir ce que nous avons reçu de toi depuis un certain temps. Merci d'avoir fait de nous tes enfants et un royaume de prêtres. Et aussi merci, Seigneur, parce que jour après jour, comme tu l'as dit, tu es avec nous, tu nous accompagnes sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Merci pour la famille spirituelle que tu nous as donnée, l'Église. Merci aussi parce que tu continues à faire ton œuvre en nous pour que nous puissions ressembler jour après jour davantage à la personne de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Le peuple de Dieu dit Amen. J'invite à vous lever, on va inviter les